France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
L'onde de choc produite par l'effritement de la société salariale a été analysée par Robert Castel dans les années 90. Son ouvrage « Les métamorphoses de la question sociale », une chronique du salariat, pose le problème d'une structure sociale en passe de se déliter de part en part. Un ouvrage devenu un classique pour tous les chercheurs en inégalité sociale ou dans le champ de l'intégration et du statut de l'individu. Mort en mars 2013, à 79 ans, Robert Castel laisse également la gestion des risques, la montée des incertitudes ou encore « Changement et pensée du changement » échange avec Claude Martin aux éditions La Découverte. Eliane Contini avait invité Robert Castel à une mise au point en 1995.
Mise au point, bonsoir à tous. Mon invité ce soir est Robert Castel pour son livre « Les métamorphoses de la question sociale » publié chez Fayard. Robert Castel, vous êtes sociologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous aviez publié en 81 « La gestion des risques », un livre dont on avait beaucoup parlé et on parle aussi beaucoup de celui-ci, « Les métamorphoses de la question sociale, une chronique du salariat », dans lequel vous analysez comment, finalement, au cours des siècles, on a pu fixer le travailleur à sa tâche et comment on a pu, finalement, lui donner une identité sociale. Et vous regardez aussi ce qu'il en est du rôle de l'État, qui finalement est devenu un État social relativement récemment. Comment aujourd'hui cette situation se détériore? Et vous essayez de voir aussi quelles sont les ressources que l'on peut mobiliser pour faire face donc à ces difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Alors peut-être pour commencer, comment s'est constituée la situation de travailleurs et comment s'est constituée la situation d'État social?
On pourrait dire que l'État social, ça a été une réponse à la question « qu'est-ce que c'est qu'être protégé ?» Bon, et cette question, d'ailleurs, peut recevoir historiquement de multiples réponses. Il y a des formes de protection que j'appelle de la protection rapprochée, bon, dans des sociétés où le rôle de la famille, de la ruralité, des relations de proximité, de voisinage sont importants. Bon, les gens sont pris, comme ça, dans des réseaux de protection, donc de proximité. Mais avec les progrès de l'urbanisation, de l'industrialisation, bon, ces solidarités, on pourrait dire primaires, se défont. Et une des conséquences de cela, c'est une sorte de vulnérabilité populaire. Hein, le fait de vivre au jour la journée, comme on disait au début du 19e siècle, d'être à la merci du moindre aléa, du chômage, de la maladie, de l'accident, etc. Et bon, dans ce contexte, donc, qui est lié au développement de l'industrialisation et en particulier au développement d'un salariat, qui commence par essentiellement un salariat industriel, bon, la question se pose finalement de stabiliser ces masses populaires. Et je crois qu'on peut interpréter le rôle de ce qu'on appelle l'État-providence ou l'État social comme le déploiement de stratégies spécifiques pour assurer des protections par l'intermédiaire du travail. Et c'est tout un mouvement d'ailleurs qui a pris du temps et qui culmine dans ce qu'on appelle la sécurité sociale. Bon, ce qui veut dire qu'effectivement, d'abord, puisque ça a commencé comme ça, le travailleur, sur la base de sa fixation à son travail, et reçoit non seulement un revenu de subsistance, comme ça avait été le cas précédemment des salariés, mais il reçoit aussi un certain nombre de garanties contre les aléas de l'existence, c'est-à-dire qu'il y a toute une part de la condition salariale qui échappe au marché sous sa forme la plus brutale et d'ailleurs la plus libérale, et qui tend, si on laisse, me semble-t-il, faire le marché n'est pas un facteur de cohésion sociale. Donc il faut, dans le cadre d'une société comme ça qui dépend de plus en plus de la division du travail, de l'industrialisation, etc., une sorte de principe de cohésion que a commencé effectivement à jouer l'État.
Dans les années, donc, après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale,
essentiellement. C'est-à-dire que l'histoire, elle est longue, effectivement, elle commence, mais fort timidement, au XIXe siècle, mais c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale, dans ce qui a coïncidé en même temps avec la période de croissance, qu'on appelle quelquefois les 30 glorieuses,
bien
que l'expression puisse être contestée, mais enfin, qu'il y a eu, justement, une sorte de parallélisme entre un développement économique, mais aussi une consolidation de la condition salariale.
Et cela est venu à la suite comme ça d'une prise de conscience de l'idée que l'État effectivement pouvait assurer ce rôle, c'est-à-dire protéger finalement les citoyens, mais avec l'idée qu'on ne protège que ceux qui travaillent, puisque c'est lié quand même au travail.
Oui, c'est toujours difficile de nommer un seul acteur dans un processus, enfin qui a été un processus très complexe, parce qu'il y a eu, bon, en même temps, derrière ça, il y a tout le déroulement d'un certain nombre de luttes sociales, et en particulier l'antagonisme du capital et du travail. Mais peu à peu, enfin justement, on pourrait dire que l'État s'est institué comme une sorte de tiers, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs un arbitre complètement impartial, mais en tant que garant de la cohésion sociale, je crois que ce qui est un de ses rôles fondamentaux, bon, il s'est mis en place un certain nombre de principes de régulation qui, encore une fois, dépassaient la logique pure du marché, qui était finalement une façon, on pourrait dire, de domestiquer le marché. Et on pourrait dire d'ailleurs que c'est sans doute à travers ces processus d'intervention de l'État que le capitalisme a sauvé sa peau. Et on peut dire, c'est-à-dire que, en tout cas, l'antagonisme frontal du capital et du travail n'a pas fonctionné, a été contourné par le fait que, à la situation de travailleurs, ont été rattachés des garanties et des droits.
Oui, mais alors ce qui s'est passé, c'est que l'État a pu, résorber les exclus tant qu'ils n'étaient pas trop nombreux. Et aujourd'hui, comme vous savez, c'est beaucoup plus difficile.
Oui, d'ailleurs, la preuve, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Oui, il y a effectivement une corrélation entre le développement de ce rôle de l'État et la croissance économique et surtout peut-être le quasi plein emploi, hein, qui a été une constante de ces années. Et actuellement, bon, la gravité de la situation tient au fait que ce plein emploi donc n'étant plus assuré, il y a des gens qui se trouvent au fond dans une situation qu'on pourrait dire d'inutilité sociale, c'est-à-dire que n'entrant pas dans cet ensemble d'échanges productifs qui passent en règle générale par le travail, ça, ils sont dans une sorte de situation de flottaison, hein, sans social, et ils ne sont plus, au sens propre du mot, intégrés.
Alors aujourd'hui, comment vous voyez des possibilités de s'en sortir, puisque finalement le fait qu'il y ait moins de travailleurs, enfin compte tenu de la population, finalement c'est toute la société salariale qui est déséquilibrée, enfin et la société tout court. Donc qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme possibilité de faire face à cette onde de choc qu'on a connue ?
Ben, il y a eu depuis une vingtaine d'années un certain nombre de tentatives qui ont été faites. Ça correspond en gros à ce qu'on appelle les politiques d'insertion, un type revenu minimum d'insertion,
contrat emploi solidarité,
politique de la ville, le traitement social du chômage, etc. Et bon, ils n'ont pas été inutiles, mais je crois qu'il faut souligner un point qui me paraît important, c'est que dans un premier temps, ces politiques se sont pensées comme provisoires. Lorsque l'on croyait que la crise, ça allait passer, comme toute crise, devrait passer et retourner à un régime de croisière qui permettrait de récupérer le plein emploi. Je crois qu'un des éléments de la gravité de la situation actuelle, c'est que progressivement, on se rend compte qu'on s'installe dans cette situation. C'est-à-dire que les politiques d'insertion ne correspondent pas simplement à une étape, à une facilitation pour passer un moment difficile, aider les gens un certain temps pour qu'ils remettent le pied à l'étrier, mais qu'il y a des gens qui s'installent dans cette situation, d'ailleurs très, très ambiguë, dans lesquelles on ne les laisse pas complètement tomber. Par exemple, le RMI, bon, c'est vrai que ça aide des gens, mais en même temps, les évaluations du RMI, par exemple, le montrent, le RMI est incapable de redonner aux gens véritablement une place stable dans la société. C'est pour ça qu'à mon sens, en fait, sans que ce soit une critique de ces politiques d'insertion, elles ne sont pas à la mesure, me semble-t-il, de la fracture actuelle.
Mais Robert Castel, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Quelles sont, d'après vous, les ressources qu'on peut mobiliser?
Bien, moi, il me semble que, au fond, quand on fait comme ça un petit peu cette sorte d'historique que j'ai tenté, on se rend compte que ce qui a vaincu la vulnérabilité de masse, qui a été quand même une constante de l'histoire, c'est l'association travail-protection. Et alors, aujourd'hui, cette association travail-protection qui était relativement facile, je dis bien relativement, à réaliser en période de plein emploi, devient quelque chose de plus difficile et devient quelque chose comme un bien rare. Et alors, à mon avis, si on prend au sérieux la question de la cohésion sociale, la solution logique, ce serait un certain partage de ce couple travail-protection. Hein, ce qui fait que...
C'est-à-dire que ceux qui travaillent partagent leur travail ou partagent leur salaire?
Oui, ceux qui... plutôt, j'allais dire, leur travail que leur salaire, dans la mesure où, justement, je crois que les deux choses, effectivement, sont indissociables. Hein, mais je crois que, c'est...
Donc vous seriez plutôt pour le temps partiel ou pour le partage du temps de travail?
Oui, d'ailleurs, je crois que... Bon, il y a eu des analyses, en particulier d'économistes, qui ont été menées sur ce sujet, bon, qui montrent que ce n'est pas une utopie au sens d'une rêverie, d'imaginer quelque chose d'idéal, etc. C'est quelque chose qui serait coûteux. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des tentatives, par exemple la semaine de 39 heures, bon, ça n'a rien fait, ça a été insignifiant par rapport au problème. Et il faudrait effectivement, je pense, des mesures énergiques pour à la fois une réduction considérable du temps de travail, mais aussi une réorganisation des conditions de travail et de la productivité du travail qui fasse que ce ne soit pas contre-productif.
Parce que c'est quand même une réduction des salaires, vous ne pouvez pas travailler beaucoup moins avec le même salaire.
Oui, mais vous savez, c'est un peu comme, j'allais dire, moi je ferai une analogie finalement entre la guerre qui est finalement la défense d'une nation en principe contre des agressions étrangères, et je ne fais pas une apologie de la guerre, mais la guerre a un coût, et un coût très très élevé, et un État le paye, et ça peut aller très loin comme coût, y compris la vie des gens. Et au fond, l'équivalent, me semble-t-il, du rôle de l'État comme garant de la cohésion sociale, sa politique intérieure, c'est de faire que les gens continuent à former une société. C'est-à-dire qu'ils soient liés par des relations d'interdépendance. Des gens qui sont hors de tout ordre du travail, de tout ordre de protection, n'appartiennent plus à la même société. Donc il est vrai que le fait de partager ces biens devenus rares aurait un coût, et sans doute un coût élevé, et c'est pour ça que apparemment l'idée n'est pas encore mûre.
Parce qu'il faudrait revenir à un état de la société qui serait un peu comme les sociétés traditionnelles. Seulement les sociétés traditionnelles, c'est relativement limité en nombre. C'est difficile d'imaginer une nation...
Non, enfin, je ne crois pas que ce soit incompatible avec quand même ce qu'ont été les acquis de la société salariale. On ne peut pas retourner, là je crois que ce serait ça, une utopie, d'ailleurs une utopie à rebours, une utopie réactionnaire, de vouloir revenir à des sociétés de type rural, etc. Mais déployer autrement le travail et les protections, y compris en gardant leurs formes les plus sophistiquées, bon, cela c'est quelque chose de techniquement difficile et de politiquement coûteux, mais me semble-t-il, de pas utopique du tout.
Je l'espère. Je vous remercie Robert Castel. Les métamorphoses de la question sociale, une chronique du salariat, c'est publié chez Fayard.
C'était Mise au point, Eliane Contini, Robert Castel, une émission diffusée la première fois le 2 mai 1995.